Bonjour bien-aimé.
Bonjour.
Que Dieu vous bénisse. Je peux fermer l'ordinateur? Oups. Voilà. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu. J'aime à dire toujours que il faut qu'on se rende compte que c'est un privilège d'être dans la maison de Dieu un dimanche matin. Quand on est chrétien, ça paraît peut-être habituel, mais souvenons-nous que dans certains pays, nos frères et nos sœurs dans la foi n'ont pas ce privilège. Ils ne peuvent pas se réunir parce qu'ils sont persécutés ou parce qu'il y a d'autres circonstances. Et vous savez qu'on est bien triste ces derniers mois-ci à cause de toutes ces guerres qui éclatent un peu partout. Et on a des frères, on a des sœurs dans le Seigneur qui ne peuvent pas. Alors quand on est dans la maison de Dieu un dimanche matin, réjouissons-nous et recommandons notre vie à Dieu. La réjouissance, c'est pas le fait qu'on n'ait pas de soucis. Non, c'est pas ça. C'est le fait de dire merci Seigneur. Parce que tu permets que malgré tout, ou en plus de ce que tu me donnes, que je sois dans ta maison. Avec reconnaissance et fidélité. Merci aussi à cette église de Vigneux parce que c'est une des églises qui soutient notre ministère. Je suis pasteur à l'église de Corbeil, qui est une église naissante. Le pasteur Jean-Claude vous en a souvent parlé. Voilà. Donc je suis Serge Oulahi, celui que certains d'entre vous et toute l'église soutient pour cette implantation de l'église à Corbeil. Je suis aussi avec le pasteur Jean-Luc à l'église d'Evry. Donc voilà. Et je suis là ce matin avec mon épouse Caroline et nos deux garçons, Othniel et Joshua. Mais on est bien content d'être avec vous ce matin. Maintenant, je ne sais pas si la parole que je vais vous donner sera une parole de joie. Ça, je ne sais pas. Mais ça sera la parole du Seigneur. Parce que tout ce que Dieu dit n'est pas toujours. Ne nous réjouit pas toujours. La Bible dit que Dieu nous donne sa parole pour nous encourager, nous exhorter, mais aussi pour nous corriger. Parce que c'est un Père qui nous aime. Et comme beaucoup d'entre nous, nous sommes parents, nous savons bien que ce n'est pas tous les jours qu'on câline les enfants. Des fois, on les corrige. D'autres fois, on leur donne des conseils. Et Dieu fait pareil avec nous. Si on est enfant de Dieu, il faut accepter que toute cette façon que Dieu a de nous parler est juste et bon. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, on veut te bénir. On veut te réjouir de ce privilège de pouvoir te louer, te célébrer dans une ambiance vivante. Parce que tu es un Dieu vivant. C'est vrai qu'on nous appelle des religions, mais nous sommes bien plus qu'une religion. Nous sommes dans une relation vivante avec le Dieu qui vit, qui est là chaque jour et qui veut nous accompagner, nous aimer, nous soutenir, nous montrer le chemin. Alors, utilise ces quelques paroles que je vais commenter de ta part pour encourager mes frères et sœurs, pour les bénir, pour leur donner de tenir ferme. Et de garder le chemin de ce salut que toi tu as acquis un grand prix pour chacun de nous. Béni sois-tu, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Le thème de mon message, c'est vivre en chrétien dans un monde non chrétien. Je ne sais pas si pour vous c'est facile. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est plus compliqué. D'autres fois, c'est plus simple. Mais quelquefois, quand on regarde tout ce qui nous entoure, quand on regarde les valeurs que le monde nous propose, notre vie chrétienne n'est pas toujours facile, même si c'est le bon choix. Parfois, on est tenté même de dire « Ah, mais ça ne fait rien, si je fais ça après, je demande pardon à Dieu. » Notre Dieu est un Dieu qui pardonne, n'est-ce pas ? Et parfois, on abuse du pardon de Dieu pour faire des choses que Dieu n'aime pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de vivre dans un monde non chrétien. Mais n'exagérons pas non plus. Dans ce pays de la France, on a au moins cette liberté de culte, encore. Et nous pouvons aussi, par rapport à cela, nous engager pour Jésus-Christ. Avoir une attitude, une vie qui honore Dieu. Ces derniers jours-ci, je réfléchissais et je me disais, mais qu'est-ce qui me différencie du musulman, du bouddhiste, du catholique, et je ne sais pas quelle autre religion. Qu'est-ce qui me différencie en tant que chrétien de toutes ces autres religions? Finalement, on est tous des religieux. on parle tous de Dieu. Et l'adage dit, tous les chemins mènent à Rome. Et parfois, tout le monde croit que c'est vrai pour le salut. On croit que tous les chemins amènent à Dieu. Et quelquefois, on s'abuse en disant, ah oui, mais c'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il n'existe pas. Le Dieu qui est bon, oui, lui, il existe, mais le bon Dieu, il n'existe pas. Vous savez que l'idée du bon Dieu, c'est un Dieu qui, c'est vrai, n'aime pas le péché, mais il pardonne tout. Tu peux avoir la vie que tu veux, au dernier jour, il va te sauver. C'est ça l'idée du bon Dieu. Ce bon Dieu-là, il n'existe pas. Vivre en chrétien dans un monde non chrétien, tout est permis, n'est-ce pas? Mais est-ce que tout est utile? Est-ce qu'en tant que chrétien, tout nous édifie? Est-ce que tout nous construit? C'est une vraie question. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4. Et je lis dans la version lue second. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Savez que dans cette épître de Jean, Jean utilise des mots directs. Il utilise des expressions parfois crues. Il appelle le chrétien à être un chrétien authentique, un vrai chrétien. Il dit en 1 Jean chapitre 2 verset 4, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui fait ce qu'il veut, celui-là c'est un menteur parce qu'il ne peut pas aimer Dieu et faire ce qu'il veut. S'il aime Dieu, il doit vivre comme Dieu lui demande de le vivre. Quand on est chrétien, en tout cas après cette parole, on est encouragé à obéir au commandement de Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas juste un sentiment. On dit, oh Seigneur, je t'aime, je brûle d'amour pour toi. Oui, c'est vrai. On peut sentir l'amour de Dieu dans notre cœur. Mais sentir cet amour sans vivre selon la Bible, selon la parole de Dieu, l'apôtre Jean nous dit que quelque part, c'est une hypocrisie. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qu'on l'aime et ne pas faire ce que cette personne aime? Et parfois, nos vies chrétiennes sont un peu comme ça. Surtout quand on est entouré de valeurs qui ne sont pas de valeurs chrétiennes. On ne prend pas le temps de regarder les choses. Vous savez que le Seigneur Jésus lui-même, et c'est ça la différence de notre foi. La différence dont je vous parlais en toutes les autres religions, c'est que le Dieu que nous adorons, il est venu comme un homme. Il a vécu comme nous. Il a vécu toutes les étapes de la vie à part la vieillesse. Et donc quand il nous parle de quelque chose qu'il a vécu. Ce n'est pas un Dieu désincarné qui est un pur esprit, qui ne sait pas ce qu'on vit dans la chair. Non, Christ a vécu dans la chair. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux peut dire, parce qu'il a souffert, parce qu'il a vécu ces choses, il peut vous soutenir, parce qu'il sait, lui, ce que c'est que d'être un homme. Les dieux de la mythologie grecque ou les dieux de certaines religions ne savent pas, parce qu'on dit qu'ils sont juste des créateurs. Ils ne peuvent pas savoir ce que l'être humain vit de l'intérieur. Le Dieu de la Bible, il a fait cette expérience. Il nous a créés en son image. Mais à un moment donné de notre histoire, il est venu vivre comme nous. Et Christ a fait des choix. Il a fait des choix. En tant que fils de Dieu, mais quand il a incarné ce corps humain, la Bible dit dans l'épître aux Colossiens qu'il a abandonné certaines puissances et certains pouvoirs qui étaient les siens pour venir vivre comme un simple homme. Il s'est soumis à la loi des êtres humains. C'est pour ça qu'avant sa résurrection, Jésus ne pouvait pas traverser les portes parce qu'il avait un corps. C'est quand il est ressuscité que lorsque les apôtres étaient dans cette chambre enfermée, qu'il a traversé la porte. Parce que là, il avait repris son corps glorieux. Et donc, je vous dis ça pour vous dire que les choix que Christ a fait, il les a fait en tant qu'homme, mais il a dû faire des choix. Et à chaque fois qu'il faisait des choix, il disait à chaque fois, c'est selon la parole de mon Père, selon la volonté de mon Père. Le chrétien est appelé à se distinguer, pas à porter sa Bible sous l'incel tous les dimanches pour dire je suis chrétien. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on en connaît beaucoup qui ont des Bibles aussi. On peut porter un signe, c'est toujours bien d'en porter. Ce n'est pas un péché d'en porter. Mais un signe nous engage. Moi, j'hésite, mais ça, c'est moi. D'autres n'hésitent pas parce qu'ils ont la conviction de le faire. Mais parfois, on ne sait pas. Vous savez, l'ictus, là, le petit poisson sur les voitures derrière, beaucoup ne savent pas ce que c'est, mais c'est le signe des chrétiens persécutés à l'époque. C'est comme ça qu'ils se reconnaissaient. Parce que c'était interdit de se réunir. Ils mettaient l'ictus sur une maison et ça voulait dire qu'il y avait des chrétiens et qu'on pouvait rentrer là pour prier avec eux. Donc aujourd'hui, on a repris le symbole et certains mettent ça derrière leur voiture. Voilà. Quand tu mets ça derrière ta voiture, il ne faut pas... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Être chrétien, ça nous engage positivement à nous distinguer. À nous distinguer. C'est pas d'avoir la grosse tête non plus. C'est pas de dire, ouais, c'est la meilleure religion. Même si c'est vrai que le Dieu que nous adorons est le vrai Dieu. Il est le Dieu unique, il n'y en a pas d'autre que lui. Rappelez-vous du credo d'Israël, Deutéronome 6, verset 4. L'Éternel notre Dieu est un. L'Éternel notre Dieu est Dieu. Mais se distinguer positivement, ça veut dire faire des choix. Des choix selon la Bible, selon la parole de Dieu. Quand on est chrétien, soit on est, soit on n'est pas. Si on est chrétien, on veut dire, on est en train de dire que la Bible n'est pas juste un livre en plus pour moi. La Bible est la parole de Dieu. Elle est le livre qui dirige ma vie. Elle a tous les conseils utiles pour que je mène ma vie ici. Elle a autorité sur moi. Ce n'est pas juste un beau livre qu'on range dans une bibliothèque. Même si quelquefois je suis un peu choqué quand je vais chez certains frères, des Bibles qui traînent au sol, ça ne se fait pas. Des Bibles entre les mains des enfants déchiquetées de toutes parts, ça ne se fait pas. Pourquoi certains font ça? Parce qu'ils achètent la Bible à 1,50€. Vous savez, moi j'ai une bibliothèque, ma femme aussi. Et les livres, ça coûte cher. Et quand vous savez le prix d'un livre, vous savez en quoi vous en tenez. Pour ceux qui achètent des livres, vous savez qu'un livre qui fait plus de 1000 pages, on ne peut pas l'acheter en 1,50€. Ce n'est pas possible. Un livre qui fait plus de 1000 pages, s'il n'est pas subventionné, il coûte des centaines d'euros. Et la Bible n'est pas juste un livre, c'est une bibliothèque de 66 livres. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ces 66 livres qui sont réunis là, c'est Dieu par son esprit qui pendant plusieurs siècles a mis des auteurs d'origines diverses, de races diverses, d'arrière-plan divers pour nous donner sa parole. Et nous, on l'a aujourd'hui. Il faut toujours vous souvenir que les chrétiens du premier siècle n'avaient pas de Bible. Ils avaient juste les rouleaux de l'Ancien Testament, mais tous ne l'avaient même pas. C'était les responsables qui les avaient. Et nous, chacun de nous au moins a une Bible. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? La parole de Dieu dit que les anges et même tous les chrétiens de l'Ancien Testament désiraient vivre l'époque que nous vivons. Parce que tous avaient l'espérance que le Christ, Dieu, viendrait habiter sur la terre. Et chacun espérait que ce serait en son temps. Et nous sommes des privilégiés. Parce que nous vivons sous la bannière du Christ. Et en plus, par son esprit, il nous donne sa parole. Mais qu'est-ce qu'on en fait, cette parole? Qu'est-ce qu'on en fait? La Bible est la parole de Dieu. C'est elle qui doit orienter nos vies. Quand on cherche à diriger sa vie, il faut toujours revenir à cette Bible pour qu'elle nous dise, mais qu'est-ce que Dieu a dit de faire dans telle ou telle circonstance? Honnêtement, pour toutes les grandes circonstances de notre vie, la Bible en a déjà parlé. Maintenant, pour les détails, ça c'est autre chose. Quelqu'un me demandait, mais est-ce que la Bible a parlé d'ordinateur, d'Internet? Je dis, je ne sais pas. Mais je sais que la Bible a parlé de ce qui est utile à l'homme. Parce qu'il faut se souvenir que sur le monde, sur le globe terrestre, il y a des hommes qui n'ont pas d'ordinateur et qui vivent. Et qui vivent bien même. Ça veut dire que c'est certes, notre société l'a rendu indispensable, mais il y en a qui ne l'ont pas et vivent bien. Une parenthèse que je vais fermer peut-être. Tout ce qu'on nous donne comme outil ultra moderne, c'est utile, hein? Comme ce petit ordinateur, tout est utile. Mais parfois, on a rendu ces choses indispensables à nos vies, comme si sans ça, on ne peut pas vivre. Si on a oublié son portable à la maison, oulala, j'ai pas mon portable sur moi. Quelquefois, on ne peut pas faire le demi-tour pour aller chercher le portable, parce qu'une journée sans portable, pourtant, on n'est pas tous des hommes d'affaires. Encore un homme d'affaires, je comprendrais, parce qu'il y a des rendez-vous, on va l'appeler. Parfois, dans la journée du noir, je ne vois qu'un seul coup de fil, mais quand même, ton portable, il est indispensable. Il y a des métiers où le portable est indispensable, j'en conviens. Mais nous, là, et je fais ma parenthèse, parfois on achète des portables qui ne correspondent pas à l'utilité qu'on va en faire. Il y a des portables qui ont 200 options et tu n'en utilises que deux. Et pourtant, tu l'as. Savoir faire des choix, frères et sœurs. Le monde nous propose tellement de choses. Là, je prends un aspect qui nous fait rigoler, certes, mais il y a d'autres aspects plus délicats. Mais ça, c'est juste pour nous donner à réfléchir. Le chrétien, c'est celui qui réfléchit sur ce qu'il fait. Parce que la Bible dit quoi? Que Dieu a renouvelé notre intelligence pour que nous puissions discerner, prendre le temps d'analyser ce que nous faisons. Pour que nous le fassions avec sagesse. Le chrétien fait l'effort de se souvenir que les mauvais choix ont des conséquences graves. Le chrétien fait l'effort de se souvenir qu'un mauvais choix a des conséquences graves. Certes, Dieu pardonne, mais les conséquences de ce que tu vas faire, tu vas quand même les porter dans ta vie. Le chrétien qui fait des choix orientés par la Bible, quelquefois, même souvent, il va se sentir peut-être repoussé par les autres, incompris. Mais moi, je pose une question. Aujourd'hui, tous ceux qui défendent leurs valeurs, et on est dans une société de liberté, ils ont le droit. Mais je constate que, par exemple, pendant la manifestation du mariage pour tous, ceux qui étaient pour le mariage pour tous défendaient leurs valeurs avec joie, avec conviction. Ils étaient vraiment fait tabasser. Parce qu'il voulait le mariage pour tous. Nous, on est chrétiens, on est timides. Est-ce que tu es chrétien? C'est-à-dire que je vais à l'église, mais bon, je ne peux pas vraiment dire que je suis chrétien. Dans nos conversations, nos collègues ou nos amis ne savent même pas qu'on est chrétien. Ce n'est pas quelque chose qu'on aborde parce que, bon, voilà, c'est pas utile s'ils le savent ou savent pas. Parce qu'après, voilà, il y a des clichés sociétals. Ah, tu es chrétien? Il y a quelqu'un qui. Il y a un jeune adulte que je connais bien qui était nouveau converti. Donc, vous savez, quand on est nouveau converti, hein, il faut garder cette flamme longtemps, longtemps, longtemps. Parce que quand on est nouveau converti, on n'a pas honte, on n'a pas peur, on y va, franco. Et lui, au travail, voilà, je suis chrétien. Et son collègue lui dit, mais tu es si déprimé que ça pour être chrétien? Parce que dans la mentalité de son collègue, aller à l'église, c'est vraiment avoir un gros problème. Parce que lui, il est athée, il n'a pas besoin de l'église. Et notre société nous fait croire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église. Tout va bien. Tout va bien. Tu as un boulot, tu as des amis, tu as ta vie. Tu n'as pas besoin de Dieu. Erreur. Grosse erreur. Parce que vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit que dans le cœur de l'homme est implantée la notion de l'éternité. Ça veut dire que dans le cœur de l'homme, il y a toujours un vide que l'homme a besoin de combler. Ce vide-là, c'est la place de Dieu. Et quand on ne vient pas vers Dieu, on le comble avec d'autres choses. Et la société les comble avec l'amusement, le matériel, plein de choses. Mais ils ne sont jamais satisfaits. Je dis toujours, en tout cas, certains l'ont dit avant moi, mais ma conviction, c'est que si la richesse satisfaisait les gens, il n'y aurait pas de riches qui se suicideraient. Et pourtant, dans le milieu des riches, combien se suicident? Et pourtant, ils ont tout. Tu dis, mais il cherche quoi, lui? Il cherche quoi? Il a tout. Mais la richesse ne fait pas tout, les frères, les sœurs. On croit que si on a demain un bon compte en banque, et machin, tout ira bien. Non, l'adage dit, celui qui augmente son capital augmente aussi ses soucis. Forcément. Bah écoutez, si je suis dans un HLM, j'ai pas tellement peur, à part peut-être les bruits. Mais si je suis dans une grosse villa, je suis obligé de prendre un vigile, service de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers là. Mais il faut être conscient de ces choses-là. La Bible en parle. Il faut être conscient de ces choses. C'est juste ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire que le matériel est mauvais. Je suis en train de parler de l'usage qu'on fait du matériel. Et le chrétien doit toujours se souvenir que le matériel ne doit pas dominer sur lui. C'est lui qui a autorité sur le matériel. Et le texte de 1 Jean 5, versets 3 à 4 nous dit bien, « En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements et ses commandements ne sont pas permis. Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. » Tout enfant de Dieu a triomphé du monde. Et qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est ta foi. La foi dont parle la Bible, c'est pas, on définit parfois la foi, on dit la foi, ouais, c'est un saut dans le vide, c'est-à-dire la foi, tu sautes dans le vide, tu sais pas où tu vas tomber, c'est faux, ça c'est pas la foi, ça, ça c'est la bêtise. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on espère? On espère les conseils de Dieu, les promesses de Dieu. Elles sont là, prescrites pour nous. Qu'est-ce qu'on a besoin que Dieu démontre? Bah, que Dieu démontre que sa parole est vraie. Et la Bible dit, mets Dieu à l'épreuve et tu verras s'il n'agira pas. Mets Dieu à l'épreuve et tu verras s'il n'agira pas. C'est une invitation. Dieu nous invite à être présents en tant que chrétiens, à vivre notre foi chrétienne, à ne pas avoir honte d'être des chrétiens, à défendre nos valeurs, pas avec des armes, mais avec l'amour de Dieu, avec la conviction qui est la nôtre, avec la détermination qui est la nôtre. Chrétien, fier d'être chrétien. Mais ce n'est pas quelque chose que j'écris sur mon front, c'est dans l'attitude que j'ai dans mon appartement avec mes voisins, au travail avec mes collègues, à l'école, au supermarché. Cette attitude dont la Bible parle, la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes remplis du fruit de l'Esprit. Quand je veux voir à quel niveau spirituel je suis, j'ouvre Galates chapitre 5 et je lis les fruits de l'Esprit et je regarde ma vie. Je dis, Serge, où tu en es avec ces choses-là? La bonté, la joie, la fidélité, l'amour, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience. La Bible dit que quand Dieu rentre dans nos vies, il a un dépôt de ces choses-là en puissance en nous. Et c'est à nous de nous en servir. Mais comme on n'aime pas toujours être soumis à Christ et que le monde nous invite toujours à se soumettre à lui, se soumet toujours au monde, malheureusement. Il faut toujours se rappeler que le Christ a vécu comme nous et qu'il a dû faire des choix. À Gethsémané, quand il allait à la mort, il n'allait pas tout joyeux. Hey, je vais à la mort, je suis content. Non. La Bible dit que la nuit, la veille de la mort, Christ a pleuré. Il a prié. Il a dit à Pierre et à ses amis, il dit, venez avec moi, je suis angoissé jusqu'à la mort. Il dit, j'ai peur. Parce qu'en tant qu'être humain, je vais mourir. Dieu ne meurt pas, mais le Fils de Dieu était un homme comme nous. Il n'était pas suicidaire, le Jésus. C'est faux. Il a dit à Gethsémané, Père, est-ce que tu ne peux pas trouver un autre moyen pour que je sauve les hommes du péché? Est-ce que tu ne peux pas ne pas m'envoyer à la mort pour que je sauve les hommes du péché? Mais toutefois, pas ce que je veux, mais ce que toi tu as décidé de toute éternité. Et je me soumettrai. Et la Bible dit que les anges sont descendus pour encourager Jésus. Et là, il était prêt. Donc, il faut qu'on soit convaincu que Christ ne nous dit pas « faites, faites » sans qu'il l'ait fait. Non, Jésus n'est pas comme ses prophètes ou comme ses chefs religieux qui disent « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Non, il a vécu comme nous. Il a fait des choix comme nous. Il a dû se positionner dans la société dans laquelle il vivait. Parfois, il allait à contre-courant des valeurs religieuses de son époque. Moi, je suis toujours marqué de voir Jésus se laisser toucher par une prostituée. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, un chef religieux ne s'approchait pas de ces gens-là. Parce que c'était de la souillure. Et il y en a un qui a invité Jésus un soir chez lui. Jésus est arrivé en train de manger. Puis il y a une prostituée qui débarque dans sa maison. Déjà, le type, il était mal à l'aise parce que la prostituée a débarqué dans sa maison. En plus, elle s'approche de Jésus. Elle tient le pied du Seigneur. Donc, elle le touche. Être à côté d'un chef religieux, encore, mais le toucher, c'est comme si tu lui communiquais ton péché. Donc, elle le touche. Ou comme si tu étais un intime de cette prostituée. Peut-être que tu l'as connue dans une de ses chambres. Mais Jésus ne regarde pas tout ça. Il se laisse toucher. Et puis le chef de cette maison qu'il a invité commence à réfléchir. Il dit dans sa tête, mais si ce Jésus était vraiment le Fils de Dieu, il aurait su quelle race mauvaise est cette femme. Il n'aurait pas laissé la toucher. Et Jésus, il est Dieu là. Là, en cet instant, il a utilisé sa prérogative de Dieu. Et il a lu dans les pensées du maître de la maison. Il dit, oui, j'entends bien ce que tu es en train de penser dans ta tête. Mais dis-moi, toi qui me considères comme un prophète, depuis que je suis rentré chez toi, ce qu'on fait avec n'importe quel invité, est-ce que tu m'as lavé les pieds? Parce qu'en Israël, on mangeait même le sol. Donc on lavait les pieds parce qu'on avait des sandales. C'était l'hygiène. Et Jésus dit, tu ne m'as même pas lavé les pieds. Mais elle, depuis qu'elle est rentrée, elle me lave les pieds de ses larmes. Elle me sue les pieds avec ses cheveux. Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle sait qu'elle a besoin de Dieu. Toi, tu es rempli de toi-même. Tu n'as pas besoin de Dieu. Et Jésus va laisser cette grande parole. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et je suis venu pour tous ceux qui sont malades. Voilà la vie que Jésus invite les chrétiens à vivre. Une vie pleine d'amour, de sensibilité, pas de jugement. Ce n'est pas nous qui jugeons, c'est Dieu qui juge. Mais donner des paroles claires aux gens, ce n'est pas les juger. Dis à mon frère, ce que tu vis là, c'est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas te juger, c'est t'avertir. Celui qui va te juger, c'est Dieu, si tu ne te réponds pas de tes voies. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour un temps de grâce. Le temps actuel que nous vivons, c'est un temps de grâce, ce n'est pas un temps de jugement. C'est un temps où Dieu fait grâce aux hommes, où il les appelle au salut. Il dit, sortez de vos chemins tortueux, revenez à Dieu. Mettez-vous sur le chemin de la parole de Dieu. Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Et dans l'histoire de l'Église, on a eu plein d'autres modèles à la suite de Jésus. Les apôtres ont été des modèles. Pierre, Paul, Jean, Jacques, tous les autres. Et même l'histoire de l'Église est pleine de modèles aussi. Est-ce que nous, on a envie aussi d'être des modèles pour d'autres chrétiens? Chaque génération est appelée à être un modèle pour les générations d'après. Déjà, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on veut être des modèles pour nos enfants? Pour que nos enfants aussi adhèrent à la foi chrétienne? Là, je n'ai pas le temps de le faire. Peut-être que Jean-Claude l'a déjà fait. Mais on a une grosse responsabilité en tant que parents. Les choix que nous faisons dans nos maisons, quel que soit le type de choix que nous faisons dans nos maisons, donnent un message à nos enfants par rapport à la Bible. La façon dont nous nous comportons dans nos maisons dit un message à nos enfants. Les enfants, vous savez, ils n'écoutent pas. Regarde, ils observent. Tu leur dis quelque chose. Et s'il te voit faire le contraire, dis papa, mais pourtant tu as dit, tu dis oui, mais tais-toi. Parfois on est agacé, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que tu lui as dit ça, et puis tu le fais. Et il te dit, mais papa, tu n'as pas dit que, tu dis oui, 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 mais c'est pas la même chose. Est-ce que nous voulons être des modèles pour les générations qui vont nous suivre? C'est pas à nous de les convertir. Mais nos vies vont être décisives dans leur conversion. Ils ont tellement de modèles, même ils ont tellement de faux modèles. Toutes ces vedettes de cinéma, tous ces grands sportifs. Je ne dis pas qu'ils sont tous pervertis, non. Mais je dis que parfois, c'est des modèles trop bien arrangés. Quand on a de grandes vedettes américaines comme quelques-unes qui ont été des vedettes internationales et qui se suicident un matin dans un lit d'hôpital, dans un lit d'hôtel par une overdose. C'est quel modèle à la société? C'est quel modèle aux jeunes, ça? Pourtant, c'est des idoles des jeunes. Mais si nous sommes des gens des hommes et des femmes simples, avec les valeurs de la Bible, c'est suffisant pour nos enfants. Mais c'est chaque jour qu'on doit travailler à ça, chaque jour. Parce qu'on est en chemin avec le Seigneur, chaque jour. Ne soyons pas des hypocrites. Les enfants n'aiment pas. Ils connaissent, ils savent discerner entre le vrai et le faux. Parfois, quand ils nous voient à l'église, on est tous... Hey, papa à l'église, maman à l'église. Parce qu'il sait qu'à la maison, c'est pas pareil. L'église, c'est pas l'endroit où on vient prendre des masques. Dans l'église, on doit être naturel. Ce que tu es dehors, sois-le dans l'église. C'est pas qu'on traverse la porte qu'on devient des saints. On est des saints chaque jour de la vie. On n'est pas saint parce qu'il y a le regard de mon frère. Non, il y a le regard de Dieu d'abord sur moi chaque jour. Vous savez, je ne sais pas si c'est vrai. Je termine par là. J'aurais peut-être beaucoup de choses à dire, mais parfois, il faut savoir s'arrêter. On raconte une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, dans une certaine culture. Une dame qui n'avait pas de quoi manger et qui avait un enfant au dos. Vous savez, dans ces cultures, on met les enfants au dos. Et qui est rentrée dans un champ de maïs parce qu'elle n'avait pas de quoi manger. Elle voulait voler des épis de maïs parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle a regardé à droite, elle a regardé à gauche, elle a regardé derrière, elle a regardé devant. Et au moment où elle voulait rentrer, l'enfant qui est derrière son dos lui dit, « Mais maman, tu n'as pas regardé en haut. » Parce que celui qui est en haut, il voit toujours. Il voit toujours. Il voit toujours. Dieu nous voit toujours. Quelles que soient les saisons, quelle que soit l'obscurité de la nuit, il nous voit. Donc c'est son regard qui est important, plus que les regards d'abord de mes frères, de mes sœurs. Ça, c'est un conseil qu'on m'a donné très tôt dans ma foi chrétienne. Serge, le regard de Dieu est plus important que le regard des hommes. Si tu es capable de faire quelque chose devant Dieu, bah, assume-le devant les hommes. Mais si tu as été capable de le faire devant Dieu, ça veut dire que soit tu as accepté de lui désobéir, soit tu as accepté de lui obéir. Frères et sœurs, ce matin, que Dieu nous encourage, que nous soyons des chrétiens, simplement des chrétiens comme Jésus le veut, que notre foi ne s'appuie pas sur ce qu'on sait, mais sur ce que la Bible dit. Prions Dieu. Seigneur, merci pour ce temps d'encouragement. Merci parce que tu m'as encouragé et au travers de cet encouragement que tu m'as donné, je le partage avec mes frères et mes sœurs. Je crois que ton esprit est vivant et qu'il agit en chacun de tes enfants. Alors Saint-Esprit, merci de parler au cœur de mon frère, de ma sœur, que ses paroles ne soient pas volatiles, mais que ce qui est utile pour lui, pour elle, qu'elle puisse la garder, qu'il puisse le garder et y travailler pour son salut, mais pour manifester l'amour de Dieu. Que ton nom soit béni pour cette église. Merci pour son ministère dans cette église. Merci pour ta présence dans cette église. Merci pour Jean-Claude et tous les responsables. Merci pour tous les frères et toutes les sœurs qui s'engagent aussi dans cette église. Bénis-les et encourage-les à se sanctifier et à marcher selon ta volonté. Dans le nom de Jésus. Amen.